Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui consacrée à Vassili Barski, voyageur du XVIIIe siècle qui part en 1723 de Kiev, sa ville natale, pour un long voyage qui le conduit en Italie, en Grèce, à Chypre, au Moyen-Orient et en Égypte, et rentre à Kiev en 1747 où il meurt peu de temps après. Le journal de voyage de Barski, source inestimable sur son époque et les lieux visités, est paru cette année dans une traduction française aux éditions des Sirtes sous le titre « Vassili Grigorovitch Barski, pérégrination ». Pour en parler, nous recevons Myriam Odaïski qui a traduit cet ouvrage et Pierre Gonod, professeur à l'université Sorbonne Université et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. On va commencer par le personnage et par vous donc Myriam. Qui est-il ?
Alors Barski, c'est un slave ukrainophone, né à Kiev en 1701 et qui a fait ses études à l'Académie Mogila de Kiev, donc une académie qui était fondée pour propager les idées humanistes dans la Russie de l'époque, en s'appuyant sur les méthodes des jésuites. Et donc il a étudié le slavon, le polonais, le grec et le latin. C'était un étudiant passionné par ses études, mais qui malheureusement a dû interrompre ses études à cause d'une maladie à la jambe, un ulcère que les médecins ne pouvaient pas guérir. Et il a profité d'un voyage d'un de ses amis, compagnon d'études, Justin Leniski, un voyage à Lviv, pour aller son ami voulait prolonger ses études dans cette ville, dans un établissement jésuite. Et donc il a accompagné son ami en espérant se faire soigner sa jambe. Et une fois sa guérison obtenue, ils ont décidé, après quelques aventures, de prolonger leur voyage, d'abord jusqu'à Bari et Rome, et ensuite, les choses ont fait que Barski a continué son voyage pendant encore 25 ans autour de la Méditerranée, donc en Grèce, au mont Athos, et puis en Terre Sainte, en Syrie, au Liban, en Égypte. Et donc Barski, après toutes ces pérégrinations, est devenu professeur de grec, et il est devenu moine. Tout ce long voyage de 25 ans a constitué en fait toute sa vie d'adulte et toute une biographie qui nous présente dans les pérégrinations.
Si vous voulez, on va juste dire un mot sur justement le livre et sur le volume. Hein. Le volume est déjà impressionnant et il n'y a pas tout, je crois, c'est ça ?
Non, il n'y a pas tout. Il manque le deuxième voyage au mont Athos, qui est un gros volume de 405 pages, qui, on espère, sera traduit un jour par un passionné de l'Athos.
On va peut-être dire quelques mots sur le contexte, je dirais, géopolitique de l'époque. Pierre Gonod, à Kiev, à Lviv, vous disiez tout à l'heure, ou Lvov, comme on veut. Bon, c'est l'Ukraine actuelle, mais à l'époque, évidemment, les frontières ne sont pas les mêmes. Et je dirais les frontières entre non seulement les États, mais également les cultures, entre les confessions. Alors, si vous voulez nous expliquer un tout petit peu tout ça.
Oui, bien, c'est un vaste programme, mais... Du point de vue politique, Vassili donc est de Kiev, mais c'est un sujet russe, de l'Empire russe, puisque effectivement l'Empire russe a récupéré ses territoires déjà en 1667. Alors par contre, plus à l'est, Lviv et tout ça, c'est des territoires qui sont dans l'État de Pologne-Lituanie, la République polono-lituanienne. Et évidemment, qui sont, même s'il y a des orthodoxes encore, sous une domination intellectuelle et, disons, religieuse, catholique. Donc, évidemment, pour ces Ukrainiens qui veulent s'instruire, ils sont séduits assez par cette pédagogie jésuite. Alors, il y a à l'Académie Mogila de Kiev, qui est orthodoxe, une sorte d'adaptation. Mais si on veut faire plus, si on veut faire mieux, évidemment, on est tenté d'aller plus à l'ouest. Et à ce moment-là, bien, il faut ruser. Il faut se faire passer pour uniate, pour quelqu'un qui reconnaît l'autorité pontificale tout en suivant le rite religieux orthodoxe. Et donc on les appelle uniate ou gréco-catholique, ce qui est l'appellation plus correcte en fait. Et moyennant ça, on peut être admis à ce collège prestigieux de Lvov. Sauf que, évidemment, les gens qui vous voient venir vous soupçonnent et Justin et Vassili sont identifiés comme étant, entre guillemets, enfin c'est ce qu'on leur dit, des loups des forêts kiéviennes, donc des faux uniates. Alors ça ne les décourage pas pour autant, et surtout ce qu'on voit c'est qu'ils connaissent un peu, par oui dire, ce monde catholique, et en tous les cas ces lieux de pèlerinage, et surtout Bari. Alors un mot sur Bari, c'est Saint-Nicolas. C'est quand même un très grand saint orthodoxe, dont les reliques étaient évidemment auparavant en Asie mineure, mais que les Italiens de Bari ont réussi à prendre et à ramener chez eux. Alors c'est quelque chose qui est connu aussi des orthodoxes, et ce lieu, ce sanctuaire, est un lieu de pèlerinage aussi pour les orthodoxes, donc ils veulent aller là. Et donc de fil en aiguille, évidemment, Barski va aller très loin. Alors ce nom de Barski vient non pas de Bari, mais de la ville de Bar, qui est aussi dans l'Ukraine actuelle, et qui avait reçu son nom d'une des reines de Pologne, qui était originaire d'Italie. Donc on voit que tout ça, c'est un creuset où se croisent ces confessions. Et Barski, donc, comme l'a dit Myriam, est latiniste, et de ce point de vue-là, pour aller en Italie, c'est pas très difficile, il peut se retrouver dans tous les lieux où on parle le latin, bien sûr, et puis après, petit à petit, l'italien, au fond, il l'attrape. Alors ça, il a un don pour les langues, hein, il faut le dire.
Bon, dans ce contexte, et puisque nous avons parlé de langue aussi, quelques explications sur la langue qu'il utilise. Dans quelle langue d'abord s'exprime-t-il ? Dans sa vie, j'imagine, c'est la langue qu'on parlait à cette époque-là, dans cette région-là. Mais quelle est la langue aussi qu'il utilise pour écrire ce que vous avez traduit ?
Oui, alors on voit dans sa correspondance que la langue de sa vie quotidienne se rapproche plus de l'ukrainien. Mais il a choisi de rédiger ses pérégrinations en slavon. Et ça, c'est un choix traditionnel. C'est pour s'inscrire dans la tradition des récits de pèlerinage qui a commencé au XIe siècle en Russie. Et c'est pour donner à son récit une connotation édifiante. C'est parce que son récit, au-delà d'un récit personnel, veut s'inscrire dans une dimension religieuse avant tout. Et donc, il a voulu utiliser la langue de l'Église comme base pour écrire son récit. Mais comme c'est un polyglotte, il utilise aussi des mots polonais, presque sans s'en rendre compte. Des mots polonais, des mots ukrainiens, des mots de tchèque. Et puis, au cours de son voyage, son récit va s'enrichir d'italien, de turc et d'arabe. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà.
Du grec aussi, peut-être ?
Du grec, bien sûr, oui. Beaucoup de mots grecs.
Et tout ça écrit en caractère
Alors, le cyrillique. Grec écrit en grec.
Écrit en grec.
Les autres mots écrits en cyrillique, donc, par exemple, il y a des mots d'arabe qui sont déformés et qu'il a fallu retrouver, qui sont écrits dans une prononciation russe, quoi.
Comme il les entendait.
Oui.
Alors, est-ce que cette langue dans laquelle il écrit est une langue compréhensible par le grand public, je dirais, de son époque ? À qui s'adresse-t-il quand il écrit ?
Il s'adresse à un public qui a reçu d'instruction. C'est une langue compréhensible pour les personnes qui ont fait des études. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une langue qui n'est pas comprise par le russe moyen.
Oui, c'est la langue liturgique, c'est
oui,
ça.
Oui.
Alors, on va continuer pour voir un peu aussi quel est le guide, je dirais, de son voyage. Qu'est-ce qui le conduit vers cette terre ? Bon, on pense que ce sont des pèlerinages. Hein. Il est allé au Matos deux fois en Terre Sainte, etc. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est le hasard ? Il prend un bateau et il l'amène là-haut. La chance le conduit ou...
C'est l'un et l'autre. Il a le désir de pèlerinage est bel et bien là, mais il y a aussi les circonstances et la chance et les rencontres qu'il fait. Donc le premier but de son voyage, d'abord, c'est d'accompagner son ami pour aller jusqu'à Lviv. Ensuite, il pousse jusqu'à Bari parce qu'il veut remercier Saint-Nicolas d'avoir guéri sa jambe. Ensuite, c'est peut-être plus la curiosité qui le pousse à aller à Rome et à faire le tour de l'Italie. Et puis, après, c'est la présence ou l'absence de bateaux, l'hiver qui l'empêche de quitter un port. Et puis, des idées qu'on va lui donner. On lui propose d'aller au Moitos, il n'y avait pas pensé. Après, il rencontre aussi un Starets, qui va être son grand ami pendant un moment, le Starets Rubim, et avec lequel ils vont essayer d'aller en Terre Sainte, sans y arriver. Et puis ensuite, il sera envoyé en mission. Une fois qu'il aura des contacts sur place, il sera envoyé en mission auprès d'autorités religieuses. Donc les motifs de voyage se changent au fur et à mesure.
Parce qu'en fait, c'est un périple qui est long, hein. C'est pratiquement 25 ans, c'est ça?
Oui, c'est un périple qui est long et au fur et à mesure, comme il s'intègre dans le milieu ecclésiastique, ses motifs de voyage deviennent plus précis.
Écoutez, il est parti de Kiev, donc nous allons dans une église, et pas n'importe laquelle, celle du monastère célèbre des grottes hein, de Kiev, la laure des grottes de Kiev, et ce sont les moines donc qui chantent un extrait de la Divine Liturgie. Les moines de la laure des grottes de Kiev chantaient cet extrait de la Divine Liturgie, qui est donc la ville natale de Vassili Barski, notre voyageur donc, qui nous laisse ses pérégrinations parues cette année aux éditions des Sirtes. Une question maintenant concernant ces pèlerins russes. Myriam Odaïski parlait tout à l'heure de cette tradition qui est longue. Pierre Gonod, comment peut-on la qualifier et quelles sont ses caractéristiques? À partir de quand et pourquoi il y a cette tendance?
Alors, dans le monde chrétien en général, il y a une littérature de pèlerinage qui est apparue, aussi bien en latin qu'après dans les langues vulgaires, donc côté catholique, et évidemment dans le monde orthodoxe aussi. Alors, la Rus de Kiev s'est convertie en 988, donc elle arrive un peu tard, mais dès 1100, en fait, on a un témoignage très précis, c'est l'abbé de Tchernigov, Daniel, qui donc part, Tchernigov c'est sur la rive opposée de Kiev, du Dniepr, en 1104-1107, il fait un grand périple en Terre Sainte et il donne son journal, lui aussi, qui est très précis. Alors l'idée, la première, c'est de donner aux autres, à ceux qui vont rester, qui n'iront pas si loin, un aperçu très topographique, très précis et qui se base sur la Bible. C'est-à-dire que c'est pas tellement l'état actuel du pays qu'on essaie de décrire, mais j'ai marché sur les pas du Christ. C'est vraiment ça qui est important. En même temps, donc Daniel est un personnage un peu comme Barski, d'ailleurs très débrouillard. Donc il arrive en 104 au moment où c'est le royaume latin de Jérusalem et il arrive très bien à s'entendre avec le roi Baudouin. Il arrive à visiter à peu près partout. Et là aussi, il est très conscient qu'il y a des sites orthodoxes, des sites déjà latins, qu'il y a des concurrences entre les deux. Et lui, il veut tout voir. Donc, il se débrouille, il se fait finalement adopter un petit peu. Simplement, bon, quand il est à Jérusalem au moment de la Pâque, évidemment, il se situe très nettement du côté des orthodoxes et il les soutient dans la mesure où il a l'impression qu'il y a une tentative un petit peu de les mettre de côté. Et Barski fera exactement la même chose, et c'est assez drôle, il raconte tous les deux à plusieurs siècles d'intervalle cette cérémonie de la Pâque, le feu sacré qui s'allume, la lumière sainte qui se rallume, dans la lampe orthodoxe et pas dans la lampe latine. Et Barski ajoute, eh bien voilà, ces latins essaient de nous étouffer avec leurs orgues parce que évidemment ils jouent de la musique instrumentale, alors que nous on chante à pleine voix, on essaie de chanter plus fort qu'eux. Donc il y a ces éléments un peu pittoresques, on pourrait dire, qui sont très présents. Et donc pour donner un élément aussi de comparaison vis-à-vis de Barski, donc il part, il est encore sujet de Sa Majesté Pierre le Grand, quand il s'en va, Et quand il arrive évidemment à Jérusalem en 1726, c'est Catherine Ière, la veuve de Pierre le Grand, qui règne. Et quand il va repartir, c'est Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, qui a entamé son règne après un coup d'État. Donc il est tout à fait d'une époque, 18e siècle, où l'Empire russe a des ambitions européennes fortes et commence à apparaître un peu comme un flambeau possible pour libérer les orthodoxes, hein, dans les Balkans et peut-être même en Terre Sainte. Et il va faire les deux, c'est-à-dire il fait son pèlerinage, il essaie vraiment de collecter, de ramener aussi des souvenirs, des médailles, des attestations, on pourrait dire, et en même temps de ramener des éléments d'information. Donc son journal est fourmillant de détails, et pour aussi ajouter une chose très importante, il y a toute sa vie personnelle, c'est-à-dire ses souffrances et ses joies, et c'est un personnage infiniment sympathique. Là, on vit avec lui cette expérience, et on le voit petit à petit aussi grandir, mûrir, et aussi expérimenter la solitude, puisqu'il part, il essaie d'avoir toujours des amis avec lui, et puis ses amis finissent toujours par rester au bout d'un moment, ou ne pas, même certains meurent, et lui continue. Mais il continue jusqu'au bout, jusqu'au moment où il rentre à Kiev.
Donc, tout ceci s'inscrit dans une tradition tout de même.
Hein? Oui, oui, oui.
Et ça, c'est important. Et en même temps, on se demande, quand on lit ça, ça se lit très facilement, hein? On peut le lire évidemment dans l'ordre comme ça, mais comme c'est très important, on peut aussi prendre, enfin moi-même, je fais comme ça, des flashs, ici ou là, en fonction des lieux, et c'est, ça se lit aussi facilement. Alors, il y a une chose qui étonne aussi beaucoup, hein, c'est peut-être un détail, mais de voir que à cette époque-là, on désigne les communautés religieuses par leur appartenance culturelle, je dirais. Alors, il dit lui-même, en arrivant à Ramla, donc on est en Terre Sainte, à l'entrée de la ville, nous fûmes accueillis par une multitude d'Arméniens, de Romains et d'Éthiopiens, de religion grecque aussi bien que turque. Et nous fûmes repartis, selon la coutume locale, en diverses hôtelleries. L'une pour les Arméniens, l'autre pour les Juifs. Quant à nous, chrétiens de foi grecque, nous descendîmes dans un hospice du patriarcat destiné aux pèlerins, près de l'église Saint-Georges. Donc c'est un Russe, ou un Ukrainien comme vous voulez, qui va au XVIIIe siècle en Terre Sainte et qui se dit grec pour dire qu'il est orthodoxe en fait.
C'est ça, tout à fait.
Et oui. Il parle des Turcs pour dire qu'ils sont musulmans.
Oui. Ben parce qu'on croise toutes sortes de caravanes de pèlerins, en fait. Il y a aussi les musulmans qui vont faire le Hajj à la Mecque, mais qui vont aussi à Damas, et qui vont à Jérusalem, d'ailleurs. Hein. Donc, ils sont là. Et il y a, effectivement, ces Arméniens, ces catholiques qui descendent dans diverses hôtelleries. Alors, il y a un peu la concurrence des hôtelleries. Il a pu faire l'expérience en Italie, où finalement, les pèlerins sont, d'après lui, bien reçus. En tout cas, il y a tout un réseau pour les accueillir. Alors là, ben, il n'a pas trop vanté sa foi grecque. Et puis, bon, il est allé au Mont Athos, où il a été parfois bien reçu, parfois moins bien. Bon, là, on pourra peut-être raconter les différences. Mais il a une certaine expérience de tout ça. Et évidemment, lui se rallie à la... Enfin, il se définit tout à fait comme étant de la foi grecque. C'est la foi orthodoxe. Et de ce point de vue-là, il n'en change pas.
Alors, est-ce que vous qui avez traduit Myriam, vous pouvez dire à qui il s'adresse? Est-ce qu'il écrit pour lui-même? Est-ce qu'il a dans sa tête un public qu'il vise déjà quand il écrit? Parce que je dis ça parce qu'évidemment ce journal est une source d'information tout à fait précieuse.
Alors, Barski dit lui-même, « Je prends tout en note dans mon livre de voyage, afin que celui qui est trop paresseux pour aller voir par lui-même soit édifié en le lisant. »
Donc c'est pour les autres.
Donc c'est pour les autres, et souvent il s'adresse au lecteur. Il s'adresse au lecteur et... en le tutoyant de façon assez familière, comme si le lecteur devait partager son quotidien, ses souffrances. Et oui, son écriture est vraiment dans une optique de partage pour les personnes qui ne peuvent pas faire le voyage.
Alors écoutez, comme nous faisons deux émissions, la première sur la personne de Basque et la deuxième, on va prendre des lieux comme ça, certains lieux, pour voir comment il est décrit et comment il est choisi en plus. Si vous voulez bien, nous allons maintenant parler un tout petit peu de ce qui laisse à l'histoire, vous qui êtes historien aussi, Pierre Gonod. Quel est l'apport de ce journal à l'histoire? Est-ce que ça nous apporte quelque chose vraiment de concret? J'ai oublié de dire aussi que ce livre était ornementé de dessins qu'il a lui-même fait. On va en parler aussi dans l'émission suivante, qui sont à la fois assez précis et d'un style assez naïf, je dirais, quand on les voit comme ça. Il y en aura sur le site de l'émission. J'invite nos auditeurs à les regarder un peu. Alors, est-ce qu'on peut parler de Basque historien?
Oui, c'est-à-dire il fait un travail, on pourrait dire, de repérage et de guide, véritablement. C'est-à-dire il nous dit le chemin, et une fois qu'on est arrivé, eh bien, il faut faire tout. Donc il a un côté enthousiaste, donc il visite chaque sanctuaire. Alors évidemment, ils sont en plus ou moins bon état. Et il nous dit bien, il y a telle église, il reste qu'un mur, et malgré tout, on vient célébrer le soir. Il y a des églises où on peut sonner les cloches, des églises où on ne peut pas, parce qu'évidemment, on est sous la domination des Turcs. Et ça aussi, évidemment, il constate l'état plus ou moins délabré, le nombre de fidèles. Et alors, évidemment, tous les lieux bibliques, les lieux attribués ou sur lesquels tel ou tel saint a posé le pied. Alors, il y a une empreinte à tel endroit. Il faut remarquer aussi telle image importante. Donc ça, on a pas à pas, le lecteur est pris en main et peut suivre. Alors, dans le deuxième récit sur le mont Athos, où en fait, celui où il revient avec cette fois-ci un passeport russe, où il est vraiment quelqu'un d'important, là, il va tout voir en grand détail. C'est pour ça que ce récit est très, très long. Mais le premier déjà nous montrait. Mais là, il se débrouillait tout seul. Donc, il avait pu voir certaines choses, pas d'autres. Donc, c'est d'abord des mémoires et des mémoires précis. Et d'autre part, quand il y a des inscriptions, il les relève. Donc, il fait un peu le rôle d'épigraphe. Alors, le grec, il l'apprend au fur et à mesure. Donc, au début, il s'entraîne. Il dessine plutôt. Il va même dessiner aussi des hiéroglyphes. Alors, à un moment, il s'essaie à déchiffrer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah, là, ça ressemble à telle lettre cyrillique. Donc, il essaie, et il veut ramener un corpus, je dirais, d'informations précises. Parfois aussi, quand même, sur les richesses du lieu. Donc, c'est pas tout à fait comme les récits de marchands. Il y avait des récits de marchands du 15e siècle russe qui donnaient des descriptions. Mais il y a quand même des éléments d'information et il décrit bien quelles sont les communautés en présence. Ça, il est très sensible à ça, il a l'œil et il sait voir les différences entre les uns et les autres. Donc, il y a sur cette époque, on a quand même beaucoup de renseignements.
Donc, ce n'est pas un historien à l'origine, mais il donne beaucoup de renseignements pour l'historien d'aujourd'hui, c'est ça,
oui. Exactement, oui.
Bon, écoutez, c'est une source donc inestimable, comme on a dit, et puis un livre très agréable, Les Pérégrinations donc de Vassil Grigorovitch Barski, paru en 2019 aux éditions des Sirtes. Myriam Odeïski et Pierre Gonon, un grand merci. Nous serons de nouveau ensemble dans 15 jours pour une deuxième émission. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Claude Niort. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.